Vous écoutez RFI, il est 5h en temps universel, 7h à Paris.
Andréane Mélard
et Grégoire Morelli pour le journal. Bonjour Grégoire.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Kiev ciblé par des bombardements russes cette nuit, alors qu'hier Donald Trump s'est montré très virulent vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, qu'il accuse de saboter un éventuel accord en refusant de céder la Crimée à Moscou. On fait le point dès le début de ce journal. Les funérailles du pape prévues samedi. Hier, des milliers de fidèles sont allés rendre un dernier hommage sur le cercueil du souverain pontife, l'évêque de Rome, qui avait comme deuxième passion le football. Hier, des supporters de San Lorenzo, son club de cœur, se sont réunis à Buenos Aires pour lui rendre un dernier hommage également. Et nous serons aussi en Côte d'Ivoire, où après la radation de la liste électorale de Tidjane Thiam, décidée par le tribunal de première instance d'Abidjan, le président du PDCI fait face à une autre affaire. Une militante conteste en effet l'élection de l'ex-patron du Crédit Suisse, à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire.
La capitale ukrainienne bombardée cette nuit.
Le bilan fait état d'au moins 9 morts et 63 blessés. La présidence ukrainienne a accusé sur Telegram le président russe d'avoir uniquement le désir de tuer. De son côté, Donald Trump s'est montré très virulent hier vis-à-vis de Volodymyr Zelensky en l'accusant de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
Le président américain a donc accusé son homologue ukrainien de saboter cet accord en refusant de céder la Crimée à Moscou.
Oui, la Maison-Blanche esquisse les contours d'un accord de paix qui reprend le discours russe autour de cette région ukrainienne annexée par Moscou en 2014. « Je pense avoir un accord avec la Russie », c'est ce qu'a lancé Donald Trump depuis le bureau ovale, tout en déplorant des discussions plus difficiles avec Volodymyr Zelensky, qui tiendrait, vous le disiez Grégoire, des propos incendiaires. Pour le président américain, la péninsule de Crimée est perdue depuis des années pour l'Ukraine. Il estime donc que le refus de Kiev d'accepter les termes proposés par Washington ne fera que prolonger les tueries. Un accord inacceptable pour Kiev, reconnaître la souveraineté de la Russie sur la Crimée, c'est abandonner l'intégrité territoriale du pays. Sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a publié une déclaration de 2018 de Mike Pompeo, celui qui était à l'époque chef de la diplomatie américaine, refusait de reconnaître la souveraineté de la Russie sur la péninsule. Une ligne très éloignée de celle prônée aujourd'hui. J.D. Vance, le vice-président, suggère de geler les lignes de front et de procéder à un échange de territoire. Des efforts de médiation que salue le porte-parole du Kremlin.
Léa Boutin-Rivière, pour toutes ces précisions, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, le maire a déclaré que 7 missiles avaient visé plusieurs cibles, une tour d'habitation notamment a été touchée. Pour l'instant, on ignore si la frappe a fait des victimes. La guerre en Ukraine, un conflit que le pape François n'a cessé de dénoncer durant son pontificat. Les funérailles du souverain pontife auront lieu samedi matin en présence de 170 délégations étrangères. Et hier, des milliers de fidèles catholiques ont afflué à la basilique Saint-Pierre. Près de 20 000, selon le Vatican, ont attendu de longues heures avant de rendre un dernier hommage au souverain pontife.
L'évêque de Rome qui avait comme deuxième religion le ballon rond.
Le plus beau sport du monde. En bon argentin, le pape François n'avait jamais caché sa passion pour le football. Même si de son propre aveu, il avouait n'avoir rien d'un champion. À Buenos Aires, on appelait un type de mon genre una patata dura, ce qui veut dire que j'avais deux pieds gauches, disait-il. Le pape François voyait dans le football un vecteur de paix et d'éducation. Et hier, des supporters de San Lorenzo, son club de cœur, se sont réunis dans la capitale argentine pour lui rendre un dernier hommage. Reportage de Théo Conscience.
88 235. Les supporters du club de San Lorenzo à Buenos Aires connaissent deux numéros d'abonnés par cœur. Le leur et celui du pape.
Je crois que le pape symbolisait les valeurs de San Lorenzo.
Valentine, abonné numéro 35687.
San Lorenzo est un club fondé par un curé pour sortir les enfants de la rue. Et je crois que le pape incarnait cette dimension sociale, nos valeurs et notre identité.
Le pape François avait confié qu'il ne regardait pas les matchs de San Lorenzo, mais qu'il demandait à un garde suisse de lui donner les scores de l'équipe qu'il allait voir au stade quand il était enfant. Et quand San Lorenzo gagne la Copa Libertadores en 2014, un an après l'élection de François en tant que pape, certains, comme Nacho, y voient un miracle.
Après tout ce temps sans y parvenir, après tous ces échecs, finir par la gagner, alors qu'un de nos supporters était au plus près de Dieu, comment ne pas y croire?
Le président de San Lorenzo a confirmé que le nouveau stade du club sera baptisé Papa Francisco en hommage au plus célèbre de ses supporters. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam fait face à un nouveau défi judiciaire après sa radiation de la liste électorale décidée par le tribunal de première instance d'Abidjan. Cette juridiction se penche aujourd'hui sur une autre affaire, celle qui oppose le président du PDCI-RDA à une militante du parti, une militante qui conteste l'élection de l'ex-patron du Crédit Suisse à la tête du plus vieux parti du pays. Les précisions à Abidjan avec notre correspondant Abdoulaziz Diallo.
Tidjane Thiam est visé depuis le mois dernier par une plainte de Valérie Yapo, militante et membre du bureau politique du PDCI-RDA. Elle conteste son élection à la tête du parti en décembre 2023. Son argument, au moment du congrès, Tidjane Thiam n'avait plus la nationalité ivoirienne. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité, le même qui a conduit à sa radiation de la liste électorale. Un Ivoirien majeur perd sa nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère ou en reconnaît une. Maître Alain Bokola, avocat de la plaignante, estime que la justice ne peut se contredire. La juridiction ne peut pas remettre en cause ce qu'elle-même vient de décider. Nous sommes confiants à 90%. La défense, elle, balaie ses arguments. Maître Rodrigue Dadjé estime que l'article 48 ne s'applique pas à Tidjane Thiam, car il est né français du fait de sa filiation. Les avocats de Valérie Yapo avaient aussi demandé la suspension des organes du parti et la nomination d'un administrateur provisoire. Mais cette requête a été rejetée le 11 avril par la juge des référés qui s'est déclarée incompétente. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
En France, l'État s'affiche au chevet des agents pénitentiaires. Hier après-midi, le Premier ministre, accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Justice, se sont rendus dans le centre pénitentiaire Saint-Quentin-Fallavier, c'est près de Lyon. Une visite qui fait suite à la série d'agressions et d'attaques diverses qui ont eu lieu depuis 10 jours contre des prisons et leur personnel. Plus de 60 faits répertoriés, Victorien Villaume.
Une courte visite, environ une heure pour le Premier ministre qui, devant une soixantaine d'agents pénitentiaires, dénonce une situation intolérable.
Il s'agissait de montrer au personnel pénitentiaire qu'on était avec eux parce qu'ils sont en première ligne des plus dangereux de la société et parce qu'ils sont notre dernier recours.
Pour François Bayrou, si des prisons sont attaquées, c'est que d'une certaine manière, l'action du gouvernement touche là où ça fait mal. Une référence à la loi narcotrafique qui s'apprête à être adoptée définitivement.
Ce sont des réseaux qui, tout d'un coup, voient la perspective des tensions plus sévères, plus rigoureuses, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison.
Voitures taguées, tirs contre des domiciles, le chef de gouvernement a rencontré 3 agents pénitentiaires victimes.
Nous avons été très émus parce que l'une d'entre elles, qui travaille dans cet établissement, nous ont dit qu'elle avait été le mouvement de solidarité de leur hiérarchie et de leurs collègues autour d'eux.
Mais pas d'annonce particulière pendant la visite, le Premier ministre le reconnaît. Faire respecter l'autorité de l'État est une tâche très difficile. Victorien Villaume, Saint-Quentin-Fallavier, RFI.
François Bayrou qui dit espérer que les auteurs des faits puissent être identifiés et appréhendés dans les jours ou les semaines à venir. Mahmoud Abbas a exhorté le Hamas à libérer les derniers otages israéliens retenus à Gaza. Le président de l'autorité palestinienne, qui n'exerce plus d'autorité sur l'enclave depuis 2007, a accusé le mouvement islamiste d'avoir fourni à Israël des prétextes pour poursuivre la guerre. Il a qualifié les dirigeants du mouvement rival de « fils de chien ». La Jordanie voisine a interdit, elle, hier, toutes les activités des frères musulmans dont les activités ont été jugées susceptibles de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays. Voilà en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, accusant donc le mouvement islamiste de se doter d'armes. Les explications avec Alice Foussard.
C'est une interdiction pure et simple de la confrérie des frères musulmans. L'ensemble de leurs bureaux vont être fermés, toute affiliation sera interdite, les médias ou les publications sur les réseaux sociaux qui relaieraient leur point de vue pourraient être sévèrement punis. Le gouvernement jordanien, la monarchie, veulent ainsi faire preuve de fermeté. Ce qui n'était pas totalement inattendu, explique Camilla Besca, docteur en sciences politiques.
C'est quelque chose qu'on voyait venir ces derniers jours, depuis que les autorités avaient annoncé avoir déjoué un complot terroriste et depuis la l'arrestation de 16 personnes qui avaient déclaré être affiliées à la confrérie. On s'y attendait aussi depuis lundi. Lundi s'est tenue au Parlement une séance parlementaire extrêmement tendue où beaucoup des autres députés ont demandé à ce que des mesures soient prises contre la confrérie et contre son parti politique.
Mais c'est réellement depuis 2020 que la Jordanie intensifie et rend davantage visible cette répression politique, malgré quelques signes d'ouverture, comme lors des dernières élections législatives.
Les frères musulmans, enfin plutôt le bras politique des frères musulmans, le Front d'Action Islamique, avait remporté 31 sièges sur 138, et ce qui avait surpris beaucoup de monde, parce que les électeurs et les électrices en Jordanie sont habitués à des formes d'intervention sécuritaire dans les résultats, et là, les résultats obtenus par le Front d'Action Islamique laissaient penser que ce n'avait pas été le cas.
Cette décision doit surtout être comprise au vu du contexte régional, car il s'agit du parti le plus mobilisé pour les Palestiniens, qui a gagné en popularité. Les autorités ont pu se sentir progressivement menacées.
De la musique pour terminer cette édition, avec un chanteur qui était il y a quelques jours sur la scène du Printemps de Bourges pour présenter son nouvel album. Il sera en concert à Paris, à la fin de ce mois. Il s'appelle Thibaut Van Hooland, mais le public le connaît sous le nom de scène Voyou. Il revient cette fois-ci avec un album de reprise autour d'un monument de la chanson française, Henri Salvador. Edmond Sadaka nous fait écouter tout ça.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques.
Après la parution de son deuxième disque en 2023, porté notamment par un duo avec Vanessa Paradis, et après plus d'une centaine de concerts, Voyou rend hommage ici à un artiste avec qui il a de nombreux points communs, dont un goût prononcé pour le jazz, la bossa nova et plus globalement pour les musiques sud-américaines. Avec cet album, qui est son troisième disque studio, Voyou propose une relecture de quelques chansons du crooner disparu en 2008, des chansons empreintes très souvent d'une douce mélancolie. On retrouve quelques grands succès forcément, mais pas seulement. Voyou.
Je me suis dit, plutôt que de prendre les chansons que tout le monde connaît déjà, je vais en prendre quelques-unes, mais parce qu'elles me plaisent, et puis aussi essayer d'aller chercher des chansons oubliées de Salvador qui se sont un peu perdues avec le temps, qui sont des joyaux de sa discographie, mais qui ont été un peu des phases B de Zorro est arrivé, ou des phases B de Juanita Banana, ou de chansons comme ça, quoi.
Et parmi ces chansons restées dans l'ombre, il y a par exemple Pauvre Jésus-Christ, un titre qu'il interprète aux côtés de Flor Benguigui, ex-chanteuse du groupe pop L'Impératrice.
Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Un tas de gens bizarres fumant de gros cigares. T'es signé des contrats pour jouer de la guitare.
L'album de reprise d'Henri Salvador par Voyou est à découvrir plus longuement à 7h50 de temps universel dans le choix musical de RFI.
Et Edmond Sadaka viendra en studio pour nous en parler. Merci Grégoire Morelli. 7h13 à Paris, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue, merci d'écouter RFI, notre matinée, notre tour du monde de l'actualité ce jeudi 24 avril avec évidemment Rome, ce matin où des dizaines de milliers de fidèles vont à nouveau se presser pour se recueillir aujourd'hui devant le cercueil ouvert du pape François dans la basilique Saint-Pierre. Notre envoyé spécial sera dans la longue, très longue file d'attente et il nous dit ce matin que la foule est déjà très dense à cette heure-ci. Rendez-vous à 8h avec Daniel Vallaud. Rendez-vous aussi sur RFI ce matin à Abidjan, alors que le PDCI appelle à se rassembler en soutien à Tidjane Thiam, radié des listes électorales. Bintadiane nous en parlera ce matin dans notre journal de 8h. Nous serons aussi à Antananarivo, Madagascar, où la visite d'Emmanuel Macron se poursuit avec aujourd'hui une participation du président français à la 5e commission de l'océan Indien. On en parle avec notre invité Afrique dans une demi-heure, Richard Randriam Mandrat, ancien ministre malgache des Affaires étrangères. RFI également en Ukraine ce matin après une nouvelle nuit meurtrière à Kiev notamment. Où en sont les négociations? La Crimée de retour au centre du jeu. On vous en parle ce matin également au programme. La guerre commerciale, c'est le sujet de notre invité international ce jeudi. Gaëtan Plenet nous en dit plus dans 5 minutes. RFI matin, c'est aussi le sport, la presse. Vous avez une partie du programme. On peut commencer. Les obsèques du pape François se tiendront donc samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence notamment de 170 délégations étrangères, un événement planétaire et éminemment politique, alors que le Vatican est l'un des 12 pays restants à reconnaître l'île de Taïwan comme un État indépendant et non pas la Chine communiste. Les tensions entre Taipei et Pékin s'invitent aux funérailles du souverain pontife. Bonjour Nicolas Roquin.
Bonjour Andréane.
Du service international d'RFI. Alors malgré ce statut particulier d'allié diplomatique, Taïwan ne sera pas représenté par son chef d'État aux funérailles du pape.
Et non, finalement, le président Lai Ching-te ne sera pas présent à la cérémonie ce samedi. C'est l'ancien vice-président Chen Tianzhen qui sera à la tête de la délégation taïwanaise. Alors il s'agit d'une figure politique de haut rang, d'un fervent catholique qui a rencontré le pape à 6 reprises. Un profil idéal, ou presque, car il n'est pas en exercice. Et cela, c'est une vraie déception pour Taïwan et son président, Lai Ching-te, qui s'était rendu ce mercredi à l'archevêché de Taipei pour rendre hommage au pape François. Il était accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères, François Wu.
Nous cherchons activement une solution et il y a beaucoup de pression autour de cela. Mais notre gouvernement essaye naturellement par tous les moyens de permettre au président d'y aller. C'est l'objectif le plus important du ministère des Affaires étrangères actuellement.
Un vœu pieux finalement soldé par un échec annoncé quelques heures plus tard. Un coup dur pour Taïwan. Depuis l'entrée de la Chine populaire à l'ONU en 1971, les alliés de l'île se réduisent chaque année, tout comme les opportunités pour ses représentants d'assister à des événements diplomatiques et de rencontrer des chef d'État étranger.
Alors pourquoi n'a-t-il pas pu s'y rendre ?
Eh bien car le Vatican aussi a son agenda diplomatique et une présence d'un chef d'État taïwanais aux obsèques, cela signifie froisser Pékin, qui qualifie d'ailleurs Lai Ching-te de dangereux indépendantiste. Ma Ying-jeou, ancien président de Taïwan, favorable à l'entretien de bonnes relations avec la Chine, s'était rendu à la première messe de François en tant que pape en 2013. Mais depuis, l'Argentin n'a cessé de montrer sa volonté de se rapprocher de Pékin en survolant l'espace aérien pour se rendre en Corée du Sud. Il a même envoyé un message radio au peuple chinois. Son enthousiasme pour le pays, il en a parlé lui-même à plusieurs reprises.
J'aimerais beaucoup aller en Chine. J'aime le peuple chinois et j'espère qu'il y aura des possibilités d'avoir de bonnes relations. Nous discutons et nous allons de l'avant. Mais pour moi, avoir un ami comme la Chine, avec tant de culture, tant de possibilités de faire le bien, ce serait une joie.
Pourtant particulièrement mobilisé sur les souffrances des plus démunis, il n'a évoqué qu'une seule fois le sort des Ouïghours pour dire qu'il priait pour eux.
Pourtant, vous nous le rappelez Nicolas, les relations entre la Chine et le Vatican sont particulièrement compliquées.
Oui, et depuis longtemps, Andréane, 1951 pour être précis, quand la Chine populaire expulsait le représentant du Vatican. Longtemps, deux églises ont cohabité en Chine pour les plus de 10 millions de croyants qui s'y trouvent, celle autorisée par le pouvoir et celle reconnue par le Vatican. En 2018, le pape François a obtenu un accord sur la nomination des évêques, certains nommés par Pékin, d'autres par le Saint-Siège. Les relations se sont relativement apaisées, mais la situation reste tendue et les bras de fer fréquents sur la nomination des évêques. Un dossier que devra reprendre le prochain pape, si lui aussi poursuit sa politique d'ouverture vers Pékin.
Nicolas Roca, du service international d'RFI, en direct avec nous pour la Une en Asie. RFI et la Chine au cœur de l'actualité encore ce jeudi matin, alors qu'une issue semble se dessiner tout doucement entre Pékin et Washington dans la guerre commerciale qui les oppose. Le président américain Donald Trump a fait état hier, mercredi, de la possibilité d'un accord équitable avec la Chine, même si pour l'heure, le ministre américain des Finances le dit, les négociations n'ont pas débuté. Tout cela dans le contexte des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane.
Les revirements de la présidence Trump, ce contexte de volatilité, d'incertitude, tout cela infuse évidemment sur les discussions à Washington. Et votre invité ce matin est bien placé pour le savoir.
Et puisqu'elle y participe, Anne-Laure Kichel, présidente et fondatrice de la société de conseil aux États Global Sovereign Advisory. Elle nous racontera un petit peu l'ambiance dans les couloirs pour cette session de printemps particulière. Les droits de douane américains ont fait peur aux places boursières, mais aussi au FMI, qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. Les États-Unis n'y échappent pas d'ailleurs, n'en déplaise à Donald Trump, lui qui disait à qui voulait l'entendre que ces mesures ne fragiliseraient pas l'économie américaine. Eh bien visiblement si. La Chine n'est pas en reste non plus et va devoir confirmer son virage vers une économie davantage tournée vers la demande intérieure. Et puis on va parler aussi de la dette, c'est la spécialité de notre invité, considérée comme celle qui murmure aux oreilles des États endettés. Anne-Laure Kichel tout à l'heure sur RFI.
A tout à l'heure Gaëtan, 6h20 en universel pour cet entretien. France, il est le lanceur d'alerte de l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Il a brisé une omerta de 60 ans sur cet établissement privé catholique du sud-ouest de la France et sur ce qu'il s'y passait. Alain Esquer, le fondateur du collectif des victimes, publie aujourd'hui un livre coécrit avec une journaliste et baptisé « Le silence de Bétarame », le fruit de 18 mois d'une quête de vérité auprès des anciens élèves de l'établissement, d'une alerte lancée dans la presse début février et de la saisie de l'affaire par la justice. Dans ce livre notamment, le témoignage de la fille aînée du Premier ministre français qui révèle avoir été battue à Bétarame. En tant que père, ça me poignarde le cœur, a réagi hier François Bayrou, accusé depuis des mois d'avoir été au courant de l'affaire et de n'avoir rien dit. Cette affaire Bétarame est un véritable séisme en France et a ouvert encore d'autres plaies dans d'autres établissements privés. Un effet boule de neige que nous raconte ce matin Marie Cazadebé.
Alors, j'en sois sur plein de réseaux différents en fait.
Constance Bertrand sort de son sac son ordinateur portable.
J'en ai eu encore ce week-end.
Depuis un mois et demi, cette quadragénaire reçoit quasi quotidiennement des récits d'anciens élèves de l'établissement privé catholique où elle a été scolarisée.
À l'origine, on a ouvert ce groupe Facebook parce que on apprend le 3 mars qu'un surveillant de Bétarame a poursuivi sa carrière directement après Bétarame à Saint-Dominique-de-Nuit.
Mais les messages qui affluent ne concernent pas seulement ce surveillant.
En 5 jours, on obtient des témoignages de choses gravissimes sur 6 personnes.
Des accusations de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles et de viols. Beaucoup sont anonymes, publiés en messages privés. Constance, qui elle-même a été victime de harcèlement, décide alors de témoigner à visage découvert.
J'ai trouvé que c'était important de le faire pour que les gens sachent à qui ils s'adressaient. Et puis les témoignages arrivent. Ça, c'est mon cahier des horreurs, en fait. Je suis obligée de prendre des notes pour ne pas mélanger les témoignages, etc.
Une 50aine de victimes sont déjà sorties du silence pour des faits allant des années 80 au début des années 2000.
Une maîtresse qui arrache l'oreille d'une petite fille, une maîtresse qui donne des coups de poing dans la tête d'un enfant, un maître qui caresse des enfants sous la jupe. Les parents ont la plupart du temps fait des démarches auprès de l'institution, mais l'institution ne les a pas soutenus.
Combien alors vous avez répertorié de personnes accusées de violence?
On en est à une dizaine. On a des enseignants, des surveillants, des prêtres aumôniers, les censeurs. Censeur, c'est le responsable de la discipline.
5 plaintes ont été déposées, dont une pour viol.
Un enfant maltraité tout court, s'il vous plaît, un peu de courage.
Le 20 mars dernier, ensuite, Constance Bertrand prend la parole devant la commission d'enquête parlementaire mise en place fin février suite au scandale de Notre-Dame de Bétarame. Depuis, cette commission a enregistré des signalements dans 17 départements. Pour Arnaud Gallet, président de l'association de protection de l'enfance Move Enfant, un double phénomène explique ces révélations en cascade.
Un, vous avez le pouvoir d'identification, c'est-à-dire que les victimes s'identifient entre elles et ça leur permet de parler parce qu'elles vont se dire bah tiens, c'est ce que j'ai vécu. Le second élément est quand même extrêmement politique. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église en 2021, il disait que 108 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans des établissements privés. Et personne ne fait rien. Du coup, vous avez une colère en fait qui vient, c'est-à-dire que les enfants ou les enfants devenus grands ont parlé, mais on ne les a pas protégés.
Ce MeToo de l'enseignement pourrait bien dépasser le secteur privé catholique. Pour la première fois ce mardi, la commission d'enquête s'est rendue dans un lycée public où un enseignant visé par plusieurs plaintes s'est suicidé fin 2023.
Marie Cazadebé, RFI, tout de suite, c'est notre question d'environnement. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Avec vous, on parle ce matin d'une réalité qui passe trop souvent sous les radars de l'information, les incendies en Afrique. Florent, le continent brûle-t-il?
Eh bien oui, en permanence. Et comment le sait-on, Andréane? Eh bien grâce aux satellites. Plusieurs satellites d'observation détectent les feux de forêt partout sur la planète. En fait, ils détectent les nuages de monoxyde de carbone. C'est le gaz issu de la combustion. Et les cartes quotidiennes, quasiment en temps réel. Il faut 2-3 heures pour que les données arrivent sur la Terre et soient traitées. Ces cartes, elles sont éloquentes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet.
Et on mettra d'ailleurs l'adresse sur le podcast de questions d'environnement.
Oui, vous verrez, c'est assez impressionnant. Comme une espèce de nuages rouges qui recouvrent l'Afrique d'est en ouest, entre la bande sahélienne et l'Afrique centrale. On va écouter Cathy Clairbeau, elle est directrice de recherche au CNRS et elle travaille sur le suivi de la composition de l'atmosphère grâce aux données d'un satellite européen.
Il n'y a pas de jour de l'année où j'ai pas des incendies en Afrique, hein, donc c'est en permanence. C'est toujours un peu bizarre pour nous d'ailleurs, parce que quand il y a des incendies importants quelque part en été, on en parle beaucoup. Par exemple, les feux en Californie ou bien ce qu'il y a eu à Los Angeles il n'y a pas longtemps, qui détruisent des maisons, mais en fait, vu du satellite, les feux les plus importants, ce sont de loin les feux qui se produisent en permanence en Afrique et en Amazonie à certaines périodes.
L'Afrique détient, Florent, à ce titre, un triste record.
Oui, à lui tout seul, le continent africain concentre 70% des incendies de la planète. Avec plus de 4 millions de kilomètres carrés brûlés chaque année, en 20 ans, le nombre d'incendies a doublé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en particulier dans le bassin du Congo. Mais la plupart de ces incendies, ils ont une particularité. Ils sont volontaires et maîtrisés sur de petites surfaces. C'est ce qu'on appelle la culture sur brûlis, le principal mode d'agriculture dans les zones tropicales humides. Cathy Clairbeau.
Toutes les fins de culture sont brûlées parce que c'est la manière de remettre en fait la terre en état pour planter la culture suivante qui est la plus facile à mettre en œuvre et la plus économique, sûrement pas la moins polluante, mais ça nourrit les sols, les feux.
Pourquoi le feu nourrit les sols?
En fait, on faisait ça déjà à la préhistoire, il y a des milliers d'années. La cendre, c'est le meilleur engrais naturel, riche en carbone, en minéraux, et ça les plantes, elles adorent. Le problème, c'est qu'on brûle de plus en plus de forêts pour défricher et ensuite cultiver. Et ces feux de forêt, c'est du CO2 dans l'atmosphère, le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Une forêt disparue, c'est un puits de carbone en moins. Et d'ailleurs, depuis peu, l'Afrique émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe.
Et l'autre problème, vous nous le dites, c'est la pollution de l'air.
Un air qu'on respire, la fumée des incendies, c'est un cocktail particulièrement toxique. Cathy Clairbeau.
C'est probablement le cocktail de gaz le plus dangereux que vous puissiez imaginer. Une trentaine de molécules différentes. Le monoxyde de carbone, c'est la plus facile à voir par satellite. Et alors, il y a surtout les particules de suie qui sont très impactantes pour les poumons. C'est au moins aussi dangereux que de fumer des cigarettes si vous vous retrouvez dans ces régions-là du monde. S'ils ont un problème, par exemple, pour nourrir leur population, probablement que la pollution, ça vient dans un deuxième temps.
Et les Africains sont particulièrement exposés.
Oui, un chiffre pour comprendre l'étendue du problème. L'Afrique subit en moyenne chaque année 32 jours d'exposition importante aux particules fines nocives provoquées par ces incendies. Et en Europe, c'est un seul jour par an. Mais c'est pas parce qu'on est loin qu'il faut se croire à l'abri. Ces particules toxiques, le vent, les transporte parfois sur des milliers de kilomètres.
Florent Guignard pour notre question d'environnement sur RFI. Dans 3 minutes, le journal Afrique, on va parler de la RDC. Mais d'abord, un peu de musique. Un passage par notre playlist du mois. Le titre Chouchou ce matin par Yuka et Nasa.
C'est vrai, t'es belle à ciao. Tu m'as mis KO. Rame de Falcao. Baby veut son cadeau. Tu veux goûter le gâteau. Mais je suis qu'un salaud. Mon passé ciao. Peut te rendre pas.
Elle veut goûter le soir. Dans tous les sens. Dans tous les coins. Dans tous les cas. Elle prend les trains de temps en temps.
Elle prend les trains de temps en temps.
Elle veut gratter sa pièce. Donc elle m'appelle mon chou-chou-chou.
Elle sait qu'avec moi elle mange bien. Donc elle m'appelle mon gros bouchou.
Baby, attends que le sale. Elle veut tenter le tout pour tout.
C'est nous, on gère les travaux, et ça depuis des années.
Balader, dans la chape, elle veut se balader. Balader, dans la chape, elle veut se balader.
Elle veut monter dans le train, elle veut goûter mon cho-cho-cho. Elle veut goûter la frappe, elle veut goûter à tout, tout, tout.
Baby veut monter dans le train, elle veut goûter mon cho-cho-cho. Elle veut goûter la frappe, elle veut goûter à tout, tout, tout. Cho-cho-cho.
Elle sait qu'avec moi elle mange bien, donc elle m'appelle mon gros bouchou.
Baby attend que le sale, elle veut tenter le tout pour tout.
C'est nous on gère les travaux, et ça depuis des années.
Chouchou par Yuka et Nasa, à retrouver sur la playlist RFI de ce mois-ci et sur toutes les plateformes d'écoute. Belle journée, bon réveil à vous sur la radio du monde.
Baby veut monter dans le train, elle veut goûter mon chou-chou-chou. Elle veut goûter la frappe, elle veut goûter à tout.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, selon l'OMS, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Le docteur Thembo Batili, oncologue, répond à vos questions. Demain, les femmes âgées de plus de 60 ans sont plus touchées par l'arthrose que les hommes. Peut-on prévenir cette maladie articulaire du cartilage ?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants d'écrire en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.